Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale sur France 24 et Radio France Internationale pour vous faire vivre ce divorce qui nous concerne tous. Brexit au jour J, depuis minuit, une au 1er janvier, le Royaume-Uni a quitté le club européen des 27.
Avec un accord signé in extremis à Noël entre Boris Johnson, le Premier ministre conservateur, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. 1246 pages détaillent donc les futures relations commerciales, notamment sur les questions de pêche et surtout sur les échanges de biens et de services sans concurrence déloyale.
Rien ne semble avoir changé et pourtant rien ne sera plus comme avant. Les contrôles seront renforcés aux frontières pour les marchandises et les personnes. L'installation des Européens au Royaume-Uni sera moins facile et inversement, les échanges universitaires outre-Manche vont souffrir.
Dans ce contexte, comment vont évoluer les relations entre l'île et le continent? Comment l'Union européenne va poursuivre sa construction en protégeant son marché alors qu'il y a un nouveau concurrent à ses portes et puis une City de Londres dominante sur les marchés financiers?
Alors nous recevons pour en parler 4 invités de haut niveau, 2 Européens, 2 Britanniques qui croiseront le fer en première partie depuis Bratislava en Slovaquie. Maroš Šefčovič, bonjour, vous êtes le vice-président de la Commission européenne, commissaire européen en charge des relations interinstitutionnelles. Vous avez d'ailleurs négocié jusqu'au bout les modalités du fameux protocole d'Irlande du Nord, un véritable casse-tête juridique. Hein.
Et depuis Londres, Dominique Grieve, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'ancien ministre de la Justice du gouvernement de David Cameron, europhile, francophile, électron libre, dit-on. Et vous nous avez confié que vous ne passez tous vos réveillons en Bretagne, mais cette année, évidemment, ça n'a pas été pas possible, à votre grand regret. Alors, Dominique Grieve, quelles sont vos premières impressions de citoyen britannique hors de l'Union européenne ?
Je le regrette, bien sûr. Je crois que c'est une erreur que le Royaume-Uni a faite. Mais vu que nous avons fait cette erreur et qu'on n'a pas pu empêcher le Brexit après le référendum, en donnant au peuple britannique l'occasion d'avoir un second référendum et de trancher sur la question, le deal, l'accord que nous avons, est mieux que de n'avoir aucun accord. Mais à mon avis, l'accord n'est pas très satisfaisant parce que ça touche seulement sur les biens. Il y a toutes sortes de questions comme la sécurité, le partenariat sur la sécurité, les services qui ne sont pas vraiment résolus. Et à mon avis, nous allons passer les 5 à 10 ans à venir en continuant un débat interne au Royaume-Uni, mais aussi un débat avec nos voisins de l'Union européenne sur la façon dont nous pourrions peut-être renforcer les accords que nous venons de faire. Parce que, bien que je sache très bien que j'ai des collègues conservateurs qui ressentent le sentiment de libération et croient que le futur du Royaume-Uni, ça sera avec des accords commerciaux avec des tiers pays tout autour du monde, à mon avis, la question géographique de la Grande-Bretagne demande que nous ayons des liens très étroits avec nos partenaires dans l'Union européenne. Et je ne crois pas que ça va changer.
Alors, Maroš Šefčovič, en tant que vice-président de la Commission européenne et européen, convaincu, vous pensez qu'on a frôlé le pire, c'est-à-dire le non-accord? C'est un soulagement quand même pour les Européens que cette sortie ordonnée?
Premièrement, bonsoir et bon honneur à tous les spectateurs. Et bien sûr, comme chaque divorce, aussi ce divorce est un peu triste. Mais je dois aussi dire que je suis vraiment très, très soulagé que nous avons trouvé un accord qui peut nous aider de vraiment établir un partenariat spécial, un partenariat très proche, parce que je suis sûr que le Royaume-Uni et l'Union européenne resteront bien sûr les voisins, mais aussi les partenaires très proches. Je crois que nous avons trouvé un accord qui est juste, qui est bien équilibré et qui sert les Européennes et les Britanniques très bien, spécialement dans cette période qui est vraiment touchés par toute cette crise de COVID, qui est touchée par la nécessité de relance économique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons entamé une nouvelle étape et j'espère que ce sera l'étape de la proche collaboration et coopération.
Alors, Maro Sefcovic, vous parlez de coopération, tout de même, 4 ans et demi de négociations, pas mal d'énervement hein, de part et d'autre de la Manche, de l'impatience du côté des Européens. Et puis maintenant, Boris Johnson, comme Ursula von der Leyen, vous-même, font référence abondamment à l'amitié entre Londres et Bruxelles. Est-ce qu'on peut vraiment se quitter bons amis après un divorce aussi chaotique ?
J'en suis sûr, parce que nous sommes vraiment... les partenaires, les alliés très proches, les voisins avec les économies énormes. Et bien sûr, cet accord que nous avons signé aujourd'hui, c'est un accord d'un nouveau type. C'est pourquoi ça nous a pris, je suis d'accord avec vous, beaucoup de temps de trouver les solutions pour un accord qui est beaucoup plus large que l'accord que nous avons signé avec Canada. Au Japon, et c'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, ce qui sera très, très important, c'est propre mise en œuvre de l'accord et vraiment de travailler ensemble pour éviter les problèmes qu'on peut avoir au futur.
Alors, Dominique Grieve, de l'autre côté de la Manche, rappelons que vous avez quitté le Parti conservateur, trop proche des Brexiteurs extrêmes selon vous. Il n'empêche que Boris Johnson, votre Premier ministre, a en quelque sorte gagné son pari de mener à terme le Brexit rapidement et un accord commercial en un temps record. Et il va rester dans l'histoire comme il le souhaitait, comme celui qui a réussi le Brexit et fait du bien à votre pays par la même occasion ?
C'est une question difficile à répondre. À mon avis, la réponse est non. D'abord, il faut se rappeler ce que Boris Johnson avait promis au moment du référendum. C'était que le public britannique ne remarquerait même pas notre départ de l'Union européenne et que nous aurions un accord avec l'Union européenne qui serait tout à fait aussi bon que d'être membre de l'Union. C'est effectivement ce qu'il a dit. Pendant le référendum même, et l'année dernière, quand il est venu au pouvoir, il a expliqué que le deal était chose très facile et que nous allions partir le 31 janvier. Maintenant, l'année ne s'est pas déroulée de cette façon du tout, et je suis toujours critique de l'accord qu'il a fait. Maintenant, je comprends bien que si on établit des limites sur la souveraineté, l'accord suit la souveraineté et nous avons abouti avec un accord qui est probablement le maximum qu'il aurait pu négocier vu son point de vue sur la souveraineté. Mais j'ai mes doutes que cet accord va satisfaire le public britannique. Mais on verra. Et je suis aussi assez douteux que dans 4 ou 5 ans, le public va remercier Boris Johnson de ce qu'il a fait pour le pays.
Alors justement, si vous voulez, on va entrer maintenant un peu dans le détail et sur les points les plus sensibles de cet accord. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour du sort de la province britannique d'Irlande du Nord, d'autant plus que le gouvernement de Boris Johnson voulait revenir sur les dispositions qui avaient été agréées. Alors, Maro Sefcovic, vous avez été le négociateur de l'Union européenne sur ce dossier et vous avez trouvé un compromis sur le contrôle des produits en mer d'Irlande. C'est assez compliqué. Est-ce que ça va marcher ?
Oui, vous avez raison. C'est assez compliqué, mais pour bonne raison. Parce que pour nous, ça a été absolument clair et nécessaire de garantir par cet accord la paix sur l'île d'Irlande. Et on a promis qu'il n'y aura pas les frontières physiques et qu'on va aussi protéger l'intégrité du marché unique. Et je suis très heureux et très fier que nous avons réussi à garantir tout ça. Mais vous avez raison, c'était pas facile parce que dans plusieurs secteurs, la Grande-Bretagne n'était pas prête pour mise en œuvre tous les articles, toutes les prédispositions qui ont signé dans l'accord de retrait. Et c'est pourquoi nous avons travaillé beaucoup avec le chancelier Michael Gove pour trouver les solutions temporaire, mais je suis sûr que ça marchera. Les collègues, les experts, les représentatives européennes douanières seront en rendez-vous demain. Et je suis sûr qu'en proche collaboration avec les autorités du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord, on va trouver aussi les solutions comme on doit vraiment garantir que tout l'accord de retrait et tous les articles seront proprement mis en œuvre.
Alors Dominic Grieve, si l'Irlande du Nord fera toujours partie du Royaume-Uni, à partir du 1er janvier, elle devrait continuer à pouvoir commercer sans barrière avec la République d'Irlande et les autres pays de l'Union européenne. Donc on crée en quelque sorte une exception nord-irlandaise et puis on se rapproche peut-être d'une perspective de réunification de cette île.
La réunification, je n'en suis pas du tout certain. Ah, il est vrai qu'il y a un grand public en Irlande du Nord, mais toujours une minorité qui le veulent. Mais la difficulté, c'est que dès qu'on commence à parler d'unification, le risque de la descente à la violence est tout à fait présente. Et à mon avis, ce n'est pas aux intérêts du gouvernement irlandais ni du gouvernement du Royaume-Uni d'essayer de le pousser dans un sens ou dans un autre. Maintenant, la vérité, c'est que oui, les accords laissent l'Irlande du Nord dans une situation très spéciale et d'ailleurs dans un sens toujours partie du marché unique de l'Union européenne. C'est un bon accord. La difficulté a toujours été que Boris Johnson avait menti au public de l'Irlande du Nord il y a un an au sujet de l'accord de départ qu'il avait négocié et que ça a produit pour lui un grand problème politique pendant cet automne quand la réalité de l'accord qu'il avait négocié devenait apparent. Et c'est pour cette raison qu'il avait parlé de casser le droit international et ça a explosé sur lui parce que même des membres de son parti qui étaient en faveur du Brexit ne voulait pas le suivre dans une telle attente au droit international pour laquelle le Royaume-Uni a traditionnellement une très bonne réputation d'y adhérer.
Alors, il y a une autre question extrêmement sensible pour le Royaume-Uni, c'est celui de l'Écosse. La Première ministre Nicola Sturgeon a estimé le jeudi 24 décembre qu'il était temps pour la province britannique de devenir une nation européenne indépendante. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui la dislocation du royaume ?
Dominique Grieve. Je redoute la dislocation du royaume, mais l'indépendance de l'Écosse n'est pas pour demain. Et d'ailleurs, la réalité constitutionnelle ne le permet pas, sauf si le Parlement de Westminster voulait le donner. Et ça s'applique aussi à un référendum. Donc oui, je cite anxieux, un des arguments que j'avais contre le Brexit, que ça allait effectivement provoquer précisément cette crise constitutionnelle au Royaume-Uni. Mais il ne faut pas penser que ce soit inévitable, ça ne l'est pas. Et en plus, si ça devient une crise constitutionnelle après les élections écossaises pour le Parlement écossais au mois de mai de l'année prochaine, de cette année, ça va quand même être un processus qui sera très très long. À mon avis, c'est aussi un processus qui sera très mauvais, non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Écosse.
Maros Sefcovic, si véritablement ce Brexit tel qu'il est acté aujourd'hui est plutôt un succès. En tout cas, on ne subit pas des conséquences terribles ni ce 1er janvier, ni probablement pendant le week-end. Est-ce que ça ne risque pas de donner des idées à d'autres en Europe et peut-être avoir un effet d'entraînement? Ou est-ce que finalement tout le monde est désormais vacciné contre cette idée de négocier une sortie pendant de longues années avec l'Union européenne?
Je suis sûr que ce Brexit, ce n'est pas bon exemple pour nos pays membres, parce que c'est vrai que nous avons trouvé un accord, mais il y a une grande différence entre d'être le pays membre et devenir un pays tiers. Parce que, bien sûr, cette libre circulation de biens, de personnes, de capitaux, de services, ce ne sera pas possible basé sur cet accord que nous avons signé. Simplement, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers avec tous les contrôles sanitaires, phytosanitaires, douanières qui feront tout le business et tout le commerce beaucoup plus compliqué. Et bien sûr, le Royaume-Uni sera limité dans offrir, par exemple, les services aux pays membres de l'Union européenne. Il y a une grande différence entre un pays membre et un pays tiers. On verra ça dans les prochaines semaines et les mois.
Maros Sefcovic, j'aimerais un peu qu'on revienne à la question de l'Écosse, parce que l'Europe s'est un peu rétrécie, mais si l'Europe, c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît improbable, nous expliquait Dominique Griffe, mais si elle parvient jusqu'au bout de son processus et qu'elle obtient l'indépendance et qu'elle demande à rejoindre l'Union européenne, est-ce que les 27 sont vraiment prêts à l'accueillir? On sait par exemple que l'Espagne a quelques réticences.
Bien sûr, c'est un sujet qui est très très sensible pour les Royaume-Uni et bien sûr pour l'Union européenne, et c'est pourquoi je ne veux pas faire quelques spéculations sur cette hypothèse, parce que maintenant je crois que c'est un débat interne au Royaume-Uni.
Alors, Dominique Grieve, Londres et Madrid sont parvenus à un accord de principe à propos de Gibraltar le 31 décembre, alors juste avant justement la sortie effective, qui permettra de maintenir la liberté de mouvement à la frontière entre l'Espagne et cette enclave britannique de Gibraltar, située au sud de la péninsule ibérique. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec tout ce discours de Boris Johnson? On récupère notre souveraineté partout, y compris d'ailleurs à Gibraltar.
Oui, vous avez absolument raison. Ça démontre une autre raison pour laquelle le Brexit est, à mon avis, une erreur. Mais, et on dit ça, l'accord est tout à fait essentiel. Il faut se rappeler que Gibraltar était un lieu assez exceptionnel. C'est dans une région du sud de l'Espagne, ça donne sur une région du sud de l'Espagne, où le taux du chômage est très élevé, tandis que l'économie de Gibraltar est beaucoup plus forte. Donc beaucoup de travailleurs espagnols viennent à Gibraltar pour travailler. Donc c'est tout à fait à l'intérêt de l'Espagne et du Royaume-Uni et de Gibraltar que le libre mouvement de personnes puisse continuer.
Alors, dans la famille Johnson, il y a donc le fils partisan du Brexit, le Premier ministre Boris Johnson, et puis il y a le père Stanley Johnson, qui lui est un europhile, qui était contre le Brexit. Alors, pour tenter d'y échapper, il a annoncé il y a quelques jours, sur des antennes françaises, qu'il était en train de monter un dossier pour obtenir la citoyenneté française. Shocking! Beaucoup de citoyens britanniques, y compris des Brexiteurs d'ailleurs, cherchent à obtenir ce passeport européen. Dominique Grieve, est-ce que ça vous choque?
Non, ça ne me choque pas du tout. C'est une décision pratique de sa part. Il a toujours été très europhile. Il diffère entièrement de son fils à ce sujet. Donc, s'il veut obtenir la nationalité française, et il a le droit de l'avoir, je le souhaite que ça arrive aussi rapidement que possible.
Alors, merci à nos invités de cette analyse. Ils vont laisser la place à un nouveau tandem britannico-européen dans quelques minutes. Mais d'abord, rappelons que depuis la guerre, les relations entre le Royaume-Uni et le continent ont été émaillées de malentendus, de tensions. Catherine Nourry-Strint, avec son accent so british, fait le point sur cette histoire contrariée.
Ça n'a jamais été vraiment simple entre le Royaume-Uni et l'Europe. Même juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, l'ancien Premier ministre Winston Churchill a appelé à former des États-Unis d'Europe. C'est juste qu'il ne voulait pas que son pays en fasse partie. Et dans les années qui suivaient, le Royaume-Uni a été préoccupé avec l'effondrement de son empire et ne s'est pas joint aux six pays fondateurs de l'Europe. C'est vraiment la crise diplomatique et militaire du canal du Suez en 1956 qui va forcer la Grande-Bretagne à se rendre compte qu'elle n'est pas si grande que ça, qu'elle est une ancienne grande puissance. Et elle se retourne enfin vers l'Europe. Mais attention, ce n'est pas si simple. Le général de Gaulle a posé son veto deux fois sur l'entrée du Royaume-Uni en Europe, en 1963 et 67. Pour lui, ces anglo-saxons ne portaient pas à cœur le projet européen. Les Britanniques ont dû attendre son départ pour avoir le feu vert et devient pays membre en 1973. Et là, il suivait un premier référendum suite à des bagarres politiques en 1975. Mais cette fois-ci, les Britanniques ont voté à 67% de rester dans l'Europe. Une des têtes d'affiche pour le oui, Margaret Thatcher, la future Première ministre. Et oui, elle était favorable à l'Europe à l'époque. Elle espérait un paradis commercial. Mais l'idée d'une union toujours plus étroite lui faisait horreur. Et elle refusait l'entrée du Royaume-Uni dans la zone Schengen en 1985 et l'idée même de l'euro comme monnaie unique. Elle était suivie par les eurosceptiques dans son camp et dans la presse qui déplorait des atteintes à la souveraineté britannique. Et depuis la fin des années 80, l'Europe a toujours été un cauchemar pour le Parti conservateur, divisé par des eurosceptiques virulents. David Cameron, alors Premier ministre, a fini par appeler un référendum en 2016.
Voilà, et les relations ne se sont pas vraiment améliorées depuis avec ce référendum qui a conclu au Brexit en 2016, convoqué, on le disait, par David Cameron, et puis 4 ans et demi de négociations tumultueuses. Nous recevons au moment de la séparation corps et biens 2 diplomates de premier rang. On espère d'ailleurs qu'ils ne vont pas être trop langue de bois, effectivement. Jean Hasselborn, bonjour, vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, le plus petit mais le plus riche des États européens. Merci de nous avoir rejoints.
Bonsoir. Et avec nous également le Britannique Edward Llewellyn, ambassadeur du Royaume-Uni en France, ancien chef de cabinet de David Cameron au moment du référendum. Monsieur l'ambassadeur, ce 1er janvier, une parenthèse européenne de 47 ans se referme pour vous, les Britanniques, et il a fallu 4 ans, c'est long, pour acter ce divorce. Alors, Boris Johnson a tenu à faire résonner Big Ben à 23h30 en signe de célébration. C'est la fête. Est-ce que vous avez sabré le champagne de votre côté, monsieur l'ambassadeur?
Moi, j'étais ici à Paris avec ma famille. Et évidemment, on a fêté le nouvel an et aussi le nouveau chapitre pour mon pays qui commence aujourd'hui. Mais je veux souligner un point important au début, et en souhaitant à tous vos auditeurs aussi une très bonne année. Il y a évidemment des choses importantes qui changent aujourd'hui, et on est bien conscient de ça. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que le Royaume-Uni reste un pays européen. L'Europe, c'est notre continent aussi, et le Royaume-Uni va rester un pays absolument engagé dans les affaires, pas seulement du monde, mais aussi du continent et de l'Europe, au niveau de la défense, la sécurité, de la politique étrangère, toutes ces questions très importantes, y compris aussi le climat. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni vient de prendre la présidence du G7.
Alors, Jean Hasselborn, on se dit tout de même que depuis des mois, le renforcement de l'Europe sera plus facile sans les Britanniques. Bon vent, en quelque sorte. Le plan de relance post-Covid, la dette mutuelle décrétée par les 27 n'aurait pas été possible avec eux. Et ce Brexit, c'est une opportunité ou c'est un affaiblissement du projet européen?
Non, bonne année aussi, madame. Mais je pense d'abord, et je me rappelle très bien, après le 23 juin 2016, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs se sont retrouvés à Rome très vite, après le 23 juin. Et certains ont prédit une descente aux enfers de l'Union européenne. Je me rappelle très bien les Salvini, les Le Pen, les AFD, les Wilders et d'autres. Et donc, ça ne s'est pas produit. Et ce que M. l'ambassadeur vient de dire, c'est exact. Johnson, mais aussi Theresa May ont toujours dit « on va quitter l'Union européenne, mais on ne va pas quitter l'Europe ». Et heureusement qu'on a trouvé une solution. Je pense qu'à un certain moment, Boris Johnson a vu que sans accord sur le futur, je crois que la Grande-Bretagne aurait été le seul pays européen qui n'aurait pas de traité de libre-échange avec l'Union européenne, et cela aurait été très négatif. Bon, maintenant, on a trouvé une solution pour la relance Next Generation, donc 750 milliards. On a trouvé un accord aussi sur le budget donc pour les années à venir jusqu'en 2027. Est-ce que cela aurait été possible avec les Britanniques? Bon, je me rappelle très bien, 2005, le Luxembourg avait la présidence. À cette époque, c'était Blair qui nous avait bloqué, mais je pense que c'est surtout le Covid qui a accéléré donc ce budget pluriannuel. Même avec les Britanniques, où sont les Britanniques, ça ne joue plus aucun rôle. Je crois que les Britanniques ne sont plus autour de la table. On a ce qu'il faut maintenant pour devenir plus fort et pour être capable de dominer cette crise qui nous frappe tous.
Alors, le Brexit, on en parle depuis le référendum, on parle du prix du Brexit pour les Européens comme pour les Britanniques. Monsieur l'ambassadeur, votre PIB devrait baisser de 4 points de produit intérieur brut sur 10 ans. Il faut ajouter à cela les 3 points perdus depuis le référendum. Alors, aujourd'hui, on peut faire les comptes et on peut se dire est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle.
Je pense que le Royaume-Uni a une économie très forte avec des atouts qui restent très forts malgré cette période très difficile avec le Covid que nous traversons toutes et tous. Mais je suis d'accord avec le ministre quand il a dit qu'il y a des projets au niveau européen que nos partenaires européens veulent et peuvent maintenant continuer, qui peut-être aurait été plus difficile si nous avions été toujours là. Je veux souligner que le Royaume-Uni souhaite que l'Union européenne réussisse. Ça, c'est dans notre intérêt comme dans l'intérêt de nos partenaires. Et je pense qu'avec l'accord qu'on a maintenant, on a une belle base pour ça. Le Royaume-Uni veut et je pense va devenir le meilleur ami et le meilleur allié de l'Union européenne et de nos partenaires. Moi, je suis ici en tant qu'ambassadeur britannique, ici en France. La France et le Royaume-Uni ont des relations très fortes sur plusieurs sujets. Évidemment, la défense, où nous sommes les deux puissances militaires majeures de l'Europe, mais aussi au niveau du climat, où le Royaume-Uni a déjà légiféré pour être carbone neutre en 2050. Nous allons baisser nos émissions de carbone par 68% avant 2030. Et nous allons présider cette année à Glasgow avec nos amis italiens, le COP26. Le Royaume-Uni est pleinement engagé dans ce sujet qui est si important pour l'Europe, mais aussi pour toute l'humanité, franchement.
Alors, pourtant, l'Union européenne s'est beaucoup inquiétée de possibles dumping environnemental, notamment, mais fiscal, etc. Et il y a dans l'accord commercial une clause de non-régression. Si le Royaume-Uni décidait de baisser, prenons un exemple concret, sa fiscalité sur les entreprises ou brutalement aussi de produire et d'exporter du bœuf aux hormones, est-ce que l'Union européenne ira jusqu'à imposer des droits de douane unilatéralement comme elle en a le droit dans le traité, est-ce qu'on a écarté véritablement le risque d'une guerre commerciale, Jean Hasselborn?
Oui. Madame, juste une phrase, on ne contredit jamais un ambassadeur, surtout un ambassadeur de la reine, mais je voudrais seulement préciser que c'est très dommage que sur la politique étrangère, sur la politique de coopération, sur la politique de défense, il n'y a rien dans le traité, donc pour le futur. L'Union européenne était preneur, mais Là, M. Johnson a refusé, comme il a refusé aussi d'être à l'avenir membre d'Erasme. Je pense que là, c'est une, à mon avis, une faute politique.
Erasmus, parce que ce sont les échanges universitaires. Pour nos téléspectateurs, effectivement, les échanges universitaires ne sont pas non plus dans ce traité commercial. Ils ont été exclus parce qu'ils n'étaient pas rentables, selon M. Johnson.
Oui, c'est un programme de 400 millions et des pays comme la Macédoine du Nord, comme la Turquie, comme la Serbie, la Suisse va rentrer cette année, font donc partie de cet échange-là. Et là, monsieur l'ambassadeur, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, on aurait pu faire mieux. Bon, votre question. Bon, on est en France, Tour de France, ce qu'il faut éviter, je le dis, je paraphrase peut-être, c'est une sorte de dopage, comme on dirait dans le sens figuré dans le sport. Il ne faut pas que le Royaume-Uni, par exemple, soit en dessous des normes, la protection des consommateurs environnementaux, mais aussi les États. Il faut la concurrence entre les deux, c'est très positive à mon avis, mais il ne faut pas qu'il y ait donc une concurrence déloyale. Et c'est ça que nous, Européens, c'est que Michel Barnier, il faut quand même dire un mot de cet homme qui a, pendant 3 ans et demi, avec une grande ténacité, avec une persévérance d'un montagnard, a vraiment mené notre négociation de l'Union européenne avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Et je crois qu'il faut lui rendre hommage quand on parle du Brexit, parce que sans lui, cela n'aurait pas pu se faire comme cela s'est fait le 24 décembre. Donc, il faut, ce qu'on a conclu, c'est un comité pour régler les différends. J'espère que là, on va vraiment avoir beaucoup de respect l'un de l'autre, beaucoup de confiance aussi l'un de l'autre. Et il faut que, si la Grande-Bretagne veut accéder au marché européen, il faut que la Grande-Bretagne respecte les règles. L'idéal aurait été d'avoir une certaine automaticité, mais cela a été n'a pas pu être négocié dans ce sens-là. Mais j'espère, et vous voyez que, monsieur l'ambassadeur, jusqu'à présent, les traités de libre-échange qui ont été on a dit qu'ils sont programmés, ils n'ont pas encore eu. N'ont pas encore été concrétisés. Et je pense qu'à l'avenir aussi, vraiment, la Grande-Bretagne aura besoin du marché européen pour bien vivre et pour avoir toutes les possibilités pour le consommateur.
Alors, c'est intéressant parce que vous évoquez tous les deux spontanément les questions de défense, hein, et là, on sent qu'il y a des dissensions, qu'on n'est plus tout à fait des vrais amis. Jean Hasselborn, avec ce départ des Britanniques, que vous regrettez, hein, on le voit bien en matière de défense, il faut dire que l'Union européenne perd un acteur majeur, une puissance nucléaire s'en va, et puis le budget défense de l'Union européenne est amputé, il me semble, de 10 milliards d'euros. Alors, c'est un coup dur pour l'Europe de la défense ? Il va falloir reconstruire autrement ?
Vous me posez la question, madame ?
Oui, tout à fait.
Oui. Bon, évidemment, là, votre président, le président français, il est très, je dirais, très provocateur, dans le sens positif. Évidemment, je pense qu'à ce moment, dans l'Union européenne, il ne s'agit pas de concevoir à court terme une armée européenne, mais il faut ce que l'Union européenne doit faire, ce que dans l'Union européenne on doit faire, c'est d'avoir des synergies en matière de défense pour être mieux préparé. Bon, Trump va s'en aller, Biden va venir. Je pense qu'il y aura une autre culture aussi en matière de politique de défense dans l'OTAN, surtout. Il faut que cette situation qui est une situation très, très, très critique pour l'instant, vous avez votre président et beaucoup d'autres, ils ont critiqué, par exemple, la Turquie, ce que la Turquie en fait en Syrie, en Libye, mais aussi au Nagorno-Karabakh. En tant que membre de l'OTAN, c'est pratiquement inconcevable. Un allié ne fait pas ce que la Turquie a fait. Donc, il faut vraiment, à mon avis, mettre l'accent maintenant sur ce qui va, quels sont les projets. Et nous avons donc une étude qui a été faite, vous le savez, sur l'OTAN, quels sont les projets de l'OTAN, et puis voir comment on peut renforcer les synergies en ce qui concerne la défense dans l'Union européenne.
Alors, monsieur l'ambassadeur britannique, vous avez entendu effectivement les réserves du ministre luxembourgeois. Boris Johnson n'a pas négocié ni sur la défense, ni d'ailleurs sur un chapitre où on l'attendait beaucoup. Les services financiers dans cet accord commercial, la Citi a perdu son passeport européen, ne peut donc plus vendre ses produits financiers à travers l'Europe, sauf clauses compliquées de réciprocité, etc. La finance représente tout de même 7% du PIB britannique. Est-ce qu'elle n'intéresse plus les conservateurs qui sont quand même la base électorale de Boris Johnson ?
Non, bien sûr, les services financiers restent importants pour l'économie britannique et les atouts de la Citi sont toujours là. La Citi reste toujours très fort malgré les pronostics qui ont été faits il y a plusieurs années. Mais je voudrais bien rebondir sur plusieurs des points que vient de faire Monsieur le ministre. Au niveau de la politique étrangère et de la défense, le Royaume-Uni est un membre permanent du Conseil de sécurité. On travaille de manière permanente avec nos amis américains et nos amis français là. Nous restons, comme j'ai beaucoup insisté là-dessus, une puissance majeure militaire. Nous sommes en train d'investir massivement dans nos capacités militaires. Nous venons d'acheter et de déployer de nouveaux porte-avions, par exemple. Nous avons, comme la France, une force de frappe, les seules puissances d'Europe qui en disposent. On travaille avec nos partenaires dans le cadre, par exemple, de l'E3, avec nos amis allemands et français pour essayer de préserver l'accord sur l'Iran, par exemple. Nous travaillons dans d'autres formats aussi, comme le Five Eyes avec les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens, les Américains. On travaille aussi avec l'Union européenne. Et je veux vraiment insister sur ce point. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire d'avoir des éléments dans l'accord pour avoir cette coopération. Regardez ce que le Royaume-Uni fait aujourd'hui avec le COVID et les vaccins. Nous sommes au cœur des efforts d'avoir des vaccinations pour les plus pauvres, des vaccins pour les plus pauvres du monde. Le Royaume-Uni lui-même a déjà vacciné 1 million de notre population, déjà, ce qui est une bonne nouvelle. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que le vaccin Oxford-AstraZeneca vient d'être approuvé au Royaume-Uni, un vaccin qui est un vaccin international, le produit d'une coopération très étroite avec AstraZeneca, une entreprise suédoise britannique avec un PDG français. Et dernier point, si je le peux, l'idée que le Royaume-Uni a des normes très bas dans le domaine de la sécurité consommateur, c'est absolument pas le cas. Sur le climat, par exemple, nous sommes beaucoup, franchement, en avance de nos partenaires, de beaucoup de nos partenaires.
Et donc, vous pourrez nous imposer des droits de douane si on diverge, finalement. Ça va être dans l'autre sens. Alors, Dominique, une question.
Oui, vous évoquez justement la pandémie. Alors, Jean Hasselborn, j'imagine que vous avez beaucoup de réactions à tout ce que monsieur l'ambassadeur nous a dit sur les questions de défense, sur le commerce. Mais revenons vraiment sur cette question cruciale de la lutte contre la pandémie, parce que c'est vraiment ce qui préoccupe tous les Européens depuis un an. Boris Johnson, il faut le reconnaître, il a pris la pandémie à la légère au début. Mais on voit aujourd'hui, comme vient de nous le dire l'ambassadeur, que la campagne vaccinale bat son plein. Elle a même une sérieuse avance sur ce qui se fait parmi les 27. Alors face au Covid, l'Europe, on a l'impression qu'elle n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui la démonstration de sa supériorité. Jean Hasselborn, qu'est-ce que vous avez à répondre ?
Oui, c'est dommage. Je voulais quand même dire un mot parce que Theresa May, en 2018, j'étais à Munich, elle a clairement dit que pour le futur, la coopération en matière de politique étrangère, en matière de politique de défense et de coopération restera donc un domaine qui sera donc très fortement appuyé par la Grande-Bretagne si l'Union européenne le propose. Et cela, malheureusement, monsieur l'ambassadeur, je dois citer le négociateur européen, a été refusé. Donc, mais passons, j'espère
alors,
que...
Si vous voulez, parce qu'on évoque ce dossier quand même qui concerne tout le monde.
Pour la pandémie. Je crois que dans l'Union européenne, on a tergiversé au début. Vraiment, sur les frontières, ce n'était pas européen, c'était plutôt national et on avait peur pour l'Union européenne. Mais maintenant, il faut quand même voir que, et Mme van der Leyen l'a dit, il y a quand même eu un grand consensus pour l'achat donc, des vaccins, pour la distribution des vaccins et pour qu'en Europe, tous les citoyens européens aient donc la chance d'être vaccinés.
Mais c'est un peu long,
l'Union européenne,
c'est un peu long, monsieur le ministre, si je peux me permettre. Oui. Surtout en France, il faut le reconnaître. Par rapport à nos amis britanniques.
Non, mais moi je ne parle pas des amis britanniques. Tout ce qu'ils font, c'est certainement très très bien. Vous savez qu'on a une instance de contrôle qui est l'EMA, et tous les vaccins qui sont autorisés par l'EMA sont donc disponibles pour les citoyens européens. Évidemment, la logistique dans l'Union européenne, c'est un peu plus grand que la Grande-Bretagne, mais je pense que la Commission, elle fait tout ce qu'elle peut faire pour que très vite, maintenant, tous les citoyens européens, d'après donc une certaine priorité, qui est la même dans tous les pays, aillent donc droit à ce vaccin. Je ne vois pas d'horrible différence entre ce que font les Britanniques et ce que fait l'Union européenne pour les 450 millions de citoyens européens qu'il faut donc il faut donner le vaccin. Je pense que là, il n'y a pas de polémique à faire, surtout pas. Tout ce qui est autorisé par l'EMA, par cette institution européenne, est disponible dans l'Union européenne, en France et dans tous les autres pays.
Alors, monsieur l'ambassadeur britannique en France, un sujet qui fâche un petit peu plus, ou en tout cas beaucoup d'incompréhension autour de cette idée de Boris Johnson de laisser en héritage la réalisation du Brexit, écrire l'histoire encore assez floue du Global Britain. Ça ressemble beaucoup à un slogan, hein, une force libérale tournée vers le monde et le bien. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle orientation et peut-être cette nouvelle identité britannique à débarrasser de l'influence des Européens, en quelque sorte?
Je pense que ce que nous voulons dire par ça, et notre gouvernement, notre Premier ministre exprime par ça, c'est la volonté d'être engagé partout dans le monde, en Europe, évidemment, avec nos partenaires et nos amis européens. J'insiste sur ce point. Nous sommes un pays européen. Nous sommes en dehors de l'Union européenne, mais nous restons un pays européen et nous partageons les mêmes valeurs de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et des femmes. Mais le Royaume-Uni va être aussi engagé partout dans le monde pour faire du bien dans le monde. Au niveau du climat, où nous présidons le COP26 cette année, nous voulons que ce sommet soit le sommet où la plupart des pays, autant que pays que possible, s'engagent pour être carbone neutre avant 2050. C'est extrêmement important pour nos enfants et pour notre planète. Sur les sanctions, par exemple, le Royaume-Uni maintenant a la capacité de sanctionner celles et ceux qui violent, agissent contre les droits de l'homme. Extrêmement important.
On a bien compris que vous ne cessez pas d'être européen.
Sur cette question du vaccin, nous pensons que ce vaccin que nous avons maintenant, l'Oxford AstraZeneca, c'est le produit d'une coopération internationale et nous souhaitons, puisque c'est plus stockable, plus facile à distribuer.
Merci.
On peut le mettre dans le congélateur. Ça va aider beaucoup,
merci,
beaucoup
l'ambassadeur.
Les personnes les plus pauvres du monde.
Merci. On comprend que vous restez européen. Toujours, vous étiez avant un pied.